Les pieds sur terre, quartier d'été.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Et pourquoi on le ferait pas plus souvent? On pourrait le faire tous les jours, on pourrait le faire 10 fois par jour, 20 fois par jour.
Je trouve l'exposition dans l'ensemble, c'est un merveilleux portrait de la France, quoi. Et la difficulté aussi de vivre. Il y a des choses qui sont laissées à l'abandon et puis à la tristesse aussi, la pauvreté aussi beaucoup, je trouve. C'est très flagrant. Et on comprend que pas tout le monde marche à la même vitesse et dans le même créneau de temps. Je vois que les gens regardent aussi avec un intérêt énorme. Ils sont aussi fascinés par tous les détails qu'ils découvrent. Et en fait, cette exposition, c'est presque comme un sondage visuel qui vous donne comme une radiographie d'un pays. Tout d'un coup, les choses leur deviennent aussi claires. On voit qu'ils découvrent dans quoi ils vivent ou comment ils vivent. Ils se redécouvrent eux-mêmes.
Des carrefours vides, des rocades, de simples croisements de route, une boucherie, quelques panneaux de signalisation perdus dans des espaces qui ne sont ni ville ni campagne. Pas beaucoup de monde, un bureau de poste, une maison seule, debout, au bord de la nationale, une boutique de souvenirs adossée à la montagne. Tout est vide, il n'y a pas de sourire, peu de visage, mais celui de la France, une certaine France disons, celle de Raymond Depardon, qui était exposée à la Bibliothèque nationale de France du 30 septembre 2010 au 9 janvier 2011. C'était 36 tirages argentiques en couleurs lumineux, de très grand format, dans une seule pièce. Et c'est évidemment soi-même qu'on venait regarder la radiographie d'un pays, comme dit la dame à la jolie voix, un miroir de notre vie en France. C'est donc une balade à travers les photographies de Depardon qu'on aurait pu appeler « Comment va la France ?» ou bien « Où va la France ?» avec les visiteurs de l'expo qui, heureusement, parlent davantage d'eux-mêmes que de Raymond Depardon, de tous âges et de toutes les régions de France. Il raconte, dans ses pieds sur terre, quartier d'été, la culture pour tous, ce que leur disent ces photographies.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Nous sommes éblouis. On ne peut rien dire d'autre. Ce sont de très belles photos, mais et très, très, très bien exposées. On peut...
Il y en avait une que je trouvais très belle.
Il y en a qui sont très...
Attendez. Celle-ci où on devine les glaciers derrière. Hein, on les devine bien, c'est une ville de montagne. Ça, je les trouve très belles. Dans l'ensemble.
Alors, nous sommes vieilles, on a vu toute la France, on a l'habitude, et on retrouve tous les paysages qu'on a aimés, même quand il y a une route avec un sens interdit, ça nous émeut.
Je ne sais pas si ça nous émeut, le sens interdit et des graffitis dessus, mais en fait c'est amusant, on trouve, c'est la France profonde.
On aime la France, enfin, on a traversé ces paysages pendant des années, en long, en large et en travers. Nous sommes françaises pure souche, madame, françaises pure souche, c'est pour ça, ça nous plaît. C'est les petites villes, les petits villages, les champs, les petites gens. C'est absolument pas
le people parisien. Moi, parisienne, née de parents provinciaux tout de même. Elle était marseillaise et mon père ni moi. Ils sont venus à Paris s'installer. Vous aussi, du reste.
Non, moi j'ai pas de parents provinciaux. Tous mes parents étaient parisiens jusqu'à Napoléon, moi. Et ça a quand même moi changé de Paris. Vous allez dans une petite ville, bon, le cœur de la ville a moins changé que Paris, quand même, je pense. Il y avait moins de monde au kilomètre carré, quoi. Il y avait moins de monde. Oui. Hein, il y avait moins de monde.
Il y a une mixité de la population qui, depuis 15 ans ou 20 ans, qui a beaucoup changé. Si vous prenez les transports en commun, comme oui. Moi, il y a très quelques blancs loin. Le reste, c'est du noir, jaune et mélangé, comme la France est actuellement.
C'est divers et varié, ça nous plaît plutôt, mais c'est pas du tout pareil.
Comment vous le vivez, ça ?
Un peu plus difficile maintenant de rentrer seule le soir, je crois. C'est ça.
Moi, j'habite dans un quartier très populaire, mais il y a beaucoup de gens, donc quand je descends du métro, je suis jamais toute seule, j'ai jamais eu peur. J'avais plus peur dans les beaux quartiers, où quand on prend le métro et qu'on descend à Porte d'Auteuil, c'est...
Ma nièce qui habite à côté de chez vous s'est fait enlever son sac, hein, en rentrant chez elle.
Et alors, comment elle va, cette France ?
Oh, pas si mal qu'ils nous emmerdent avec ça. La France est une république bananière qui a beaucoup de scandales, mais en dehors de ces scandales people, la France va pas si mal. Je trouve qu'on vit encore bien en France et qu'il y a tout de même une liberté certaine. Non, il me semble qu'on n'est pas à plaindre. Hein. Par rapport au reste de la planète, il me semble qu'on est plutôt gâtés.
Vous ne trouvez pas que c'est un peu triste, parfois, ces photos ?
Vous les trouvez tristes ? Moi, je ne trouve pas triste du tout.
Non,
ah non, moi, je ne trouve pas triste du tout.
Non, c'est paisible. Moi, je ne trouve pas ça triste. C'est pas triste. Moi, je trouve ça triste. C'est comme ça. C'est vrai qu'il y a moins de gens dans les villages.
Oui.
Oui, que les agriculteurs ont des problèmes et qu'ils foutent tous le camp, ça c'est vrai.
Oui. Le dimanche, quand vous traversez les villages français, il n'y a personne. Ouais. Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde le dimanche dans les rues avant ? J'en sais rien, je ne me rappelle pas.
Moi j'ai toujours trouvé que les villes de province, les petites villes de province et la campagne le dimanche, c'était mortel. Tout est fermé, tout est clos. Les gens ils sont déboussolés, ils attendent que le dimanche passe, ils ne savent pas quoi faire. Ils savent pas profiter de la vie. Enfin, je sais pas, je trouve que la campagne le dimanche est triste. Alors, quand ils ont de la famille, ils sont en famille. Ils sortent de table à 5h du soir et ils commencent à regarder la télévision à 6h.
Je crois que les mecs font du sport, peut-être. Les gars, les gars vont faire un peu de foot le matin, ils vont faire un peu main. Ils achètent le gâteau chez le pâtissier. Et puis, il y a le repas du dimanche, peut-être.
J'ai une maison à la campagne, mais je suis pas du tout une fille de la campagne. Non, je suis une fille de la ville. Mais je trouve que c'est intéressant. Mais je vois que ma voisine à la campagne, elle est au courant de tas de choses. Elle n'est pas du tout enfermée dans son silence. Elle va jouer, elle va à la piscine, elle va au sport, elle va ceci, elle va cela. Elle me téléphone très régulièrement. Elle se débrouille. Ça a beaucoup changé. Elle est c'est une agricultrice. Elle est très, très gentille. Et puis moi, je trouve qu'elle est au courant de tas de choses. Elle sait des tas de trucs. Et je pense que la télévision lui apporte beaucoup parce que ça la permet d'être au courant. Si on veut choisir les émissions, c'est...
Et vous, qu'est-ce que vous faites le dimanche ?
Ben nous, maintenant qu'on ne travaille plus, nous, on va au cinéma. On va au cinéma. Vous savez, le retraité va au cinéma 3 fois par semaine et va aux expositions quand il y en a.
Ça ne manque pas,
hein. Et puis, lit les livres qui viennent de sortir pour en discuter entre elles.
Voilà. Oui.
Et puis c'est ça, c'est tout. Mmh. Et quand les retraités ont des petits-enfants, ils s'occupent des petits-enfants. Mais nous, les petits-enfants, bon, ils sont loin. Mais enfin, il y a du temps mort, vous savez. Il y a du temps mort.
Moi, je ne me plains pas.
Oui, non.
Non, ça, moi, j'ai aucun problème matériel. Donc, je fais ce que je veux.
Je voyage beaucoup.
Et je ne me gêne pas du tout pour voyager dans de bonnes conditions. Je n'ai pas assez l'âge d'avoir mal au rein. Donc, il me faut des bons hôtels, il me faut une baignoire. Là, je vais partir au Brésil. Enfin, je pars partout.
Personnellement, je vois des lieux que j'ai pu côtoyer. Donc c'est ça qui m'émeut beaucoup. C'est pour moi, par exemple, dans ma belle famille, ils vivaient dans ce genre de bâtiment. C'est des espèces de HLM qui n'ont pas de charme, mais derrière, il y a quand même... D'ailleurs, on voit quand même une dame à la fenêtre. Il y a des tas de familles qui vivent dans ce genre de lieu. Donc... J'en pense particulièrement à ma belle-mère, des gens très très simples et qui ont vécu dans un environnement comme ça, un peu chaoté par la vie, prenant pas forcément la vie à bras-le-corps pour essayer de changer. Voilà, c'est ça.
Et vous vous souvenez quand vous rentriez dans cet immeuble, comment vous vous sentiez, qu'est-ce que vous vous disiez, dans quel état vous étiez ?
Moi je me sentais pas très bien parce que pourtant je viens d'une famille aussi très modeste et sauf que mes parents et comme moi on a toujours voulu voir autre chose donc obligatoirement on a été de l'avant. Donc, moi, j'aurais jamais pu, quoi qu'il arrive, j'aurais pas pu vivre dans un environnement comme ça, avec les poubelles devant chez moi. C'est pour moi, c'était, et à côté d'un supermarché, pour moi, c'est pas possible. Bon, moi, j'avais un grand-père qui travaillait à la SNCF, mais vraiment à la base. C'était après, il a été ouvrier en usine dans les Ardennes. Et mon autre grand-mère, en fait, elle a été veuve à 32 ans avec 3 enfants. Donc voilà, son mari était militaire. Elle a envoyé mon père dans une école militaire à l'âge de 10 ans. Bon, donc moi, je viens de ce milieu-là. Et moi, je suis arrivée à Paris avec mes parents. Je commençais ma vie professionnelle. Et c'est vrai que Paris m'a ouvert les yeux. C'est évident que bon, dans un milieu professionnel aussi très porteur, j'étais dans un groupe américain, donc où c'était un peu la folie. On avait une ascension sociale absolument incroyable. On était récompensés. On était bien dans notre travail. On nous laissait beaucoup de liberté. Tout ça fait qu'on a été de l'avant. Et la période, effectivement, était très, très, très favorable à ça. Aujourd'hui, nos propres enfants n'ont pas ça, malheureusement. Aujourd'hui, déjà, dans le travail, ils ne sont pas épanouis comme nous, on pouvait l'être. Et ils ont peur. Alors ça les bloque pour évoluer, pour changer de travail. Ça les bloque. L'un et l'autre sont complètement différents. Il y en a un qui a fait des études supérieures. Il travaille dans une banque. Bon, avec son père, on trouve que bon, il va pas, il est pas, il est pas joyeux. Il est pas joyeux. À l'époque, on était très content de partir en vacances. Mais qu'est-ce que on était heureux de rentrer, de retrouver ses collègues, de retrouver ses chantiers. On était très heureux. Alors que eux, non. Eux, ils pensent qu'à une chose, en fait, ben, vivement vendredi soir, vivement les vacances et tout. Je ne sais pas comment, mais on va le payer, je pense. On va le payer très cher un jour.
Et votre fille ?
Ma fille, elle est un petit peu particulière parce qu'elle est très pessimiste déjà de nature. Donc, elle a peur. Elle est plus que son frère, elle a très peur, en fait.
Et alors, peur de quoi ?
Peur de l'avenir, tout simplement, alors qu'elle sait qu'elle a ses parents qui sont là pour quoi qu'il arrive. Bon, elle reçoit beaucoup d'amour, beaucoup de tout ce qu'on peut pour les aider, on le fait. Mais elle a peur. Et ça me rend un peu triste, c'est clair. Donc je trouve que le problème en France aujourd'hui est là, la jeunesse n'est pas joyeuse. Elle est triste quelque part, elle est profondément désespérée. Passive, malheureusement.
Mais pourtant, on l'a vu dans la rue, la jeunesse, un petit peu récemment.
Bah, moi, je pense que quand on a 15 ans ou 17 ans, on ne pense pas déjà à la retraite, quoi. En gros, mon souci, c'est construisez votre avenir, pensez à vous, pensez avancer, mais ne pensez pas déjà à s'arrêter de travailler. Le travail n'a tué personne. Le travail, quand il est, on le pratique dans de bonnes conditions et quand on a choisi, en général, la plupart des gens quand même aujourd'hui peuvent choisir ce qu'ils ont envie de faire. On va de l'avant, on travaille, on va vers son but et voilà. Il y a trop, probablement, à mon sens, un peu trop d'assistanat. Et l'État a beaucoup trop d'importance, en fait, pour moi.
Mais qu'est-ce que ça changerait, ça, pour... S'il y avait moins d'État, qu'est-ce que ça changerait pour vos enfants?
Peut-être qu'ils se prendraient plus en charge. Ils se prendraient plus en charge et ça leur donnerait des envies. Les jeunes, aujourd'hui, beaucoup de jeunes n'ont plus d'envie.
France Culture, les pieds sur terre.
On habite tous les trois dans le même secteur. On habite à Charleville-Mézières. À la Ronde Couture.
Bouvreuil. Hein. Bouvreuil Ruffet, pour le représenter. Hein. Aïe, aïe, aïe.
D'ailleurs, je voudrais passer une dédicace. À mes amis, Dordine, Sofiane, Oussa, RC Mafia.
Qu'est-ce que c'est tout ça?
C'est nos amis.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces photos?
Ouais, ça, c'est des images. En fait, quand on les regarde, il y a des impressions de relief. C'est des jeux d'ombre, de lumière, de couleurs.
On n'a pas trop compris l'intérêt de comment dire, l'exposition de ces photos.
De montrer des représentations banales de la vie.
Ça n'a pas vraiment un intérêt.
Ça n'a pas d'intérêt, c'est qu'on ne connaît pas l'intérêt. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. C'est ça.
Comme celui-là, là-haut, là, le marché avec des légumes. Celui-là, je vois pas l'intérêt parce que nous, quand on habite, il y a un marché et on voit tout le temps ça. Ouais. Tous les dimanches.
Mais les caravanes devant une maison.
La caravane devant la maison. Caravane, j'ai déjà vu une maison aussi. Ça n'a pas d'intérêt de les voir. Sauf quelques-uns que vraiment on voit pas tous les jours.
Comme quoi alors?
Bah, cette maison qui est au milieu de rien du tout.
Oui, c'est là.
Au bord d'une route.
Ça me plaît plus. Déjà, on peut se poser des questions et tenter d'y répondre. Qui a forcé les gens à habiter dans un endroit pareil? Ou alors, par exemple, nous, on habite dans des quartiers. Si on habiterait là, c'est pas ce qu'on deviendrait. Parce qu'il n'y a personne et tout. C'est le vide qui est autour qui choque, entre guillemets. Moi, j'ai grandi avec des jeunes du quartier et tout. Donc, si je serais tout seul au milieu de la campagne, alors que j'aurais déjà vécu ce que je vis aujourd'hui, je pense que ça ne me plairait pas.
Je pense qu'il faut retourner. Il faut voir la photo. On voit une France rurale qui est laissée à l'abandon. Ça peut avoir une portée critique. Je pense que c'est fait pour dénoncer. Je pense qu'on peut les assimiler.
Ouais.
Nos quartiers et cette France qu'on voit, cette France rurale qui sont laissées à l'abandon.
Je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il dit. Parce que non, parce que déjà il y a des associations, on peut faire des activités, donc ça peut nous aider.
Bon, attends, la mairie elle leur donne rien du tout pour faire ça pas ou quoi. Moi je te sors des statistiques du concret. La région champenoise, Champagne-Ardenne, est la seule région française qui voit sa population partir en ville. Notamment en direction d'Île-de-France. Qu'est-ce que tu réponds à ça?
Ben c'est normal, il n'y a pas de travail.
Ben voilà, c'est ça le problème. Tu vas pas rester adolescent toute ta vie, c'est ça. C'est l'État qui doit amener du travail en Champagne-Ardenne. Ils doivent donner du travail. Ils ne doivent pas laisser les gens dans cet état de France laissée à l'abandon. C'est pas juste. Par exemple, je vous donne un exemple tout simple. Nous, il y en a quelques-uns de nous qui veulent faire... des classes préparatoires. Est-ce qu'il y a des classes préparatoires à Charleville-Mézières, qui est notamment le chef-lieu des Ardennes? Est-ce qu'il y en a? Je vous le dis très clairement, il n'y en a pas. Ça pousse les gens à partir.
Moi, perso, je pourrais pas vivre en France toute ma vie. Moi,
en France?
Ouais, en France, carrément. Moi, j'aimerais partir carrément du pays, aller en Angleterre ou aux États-Unis. C'est... Là-bas, il y a plus d'opportunités déjà, tout ça. Ici, il y a... En plus, déjà, je trouve en France, il y a trop de racisme. Il y a trop de racisme.
C'est un pays trop conservateur.
Trop de racisme. On est toujours discriminé, tout ça. On parle de discrimination positive, je la vois pas, tout ça. Quand je vois mes cousins qui sont immigrés, ils sont partis en Angleterre, en Hollande, tout ça. Ils ont plus d'opportunités. En Angleterre, je vois, mes tantes, elles travaillent avec le voile, tout ça. Il n'y a pas de problème. Ils s'en foutent de la religion. Eux, ils veulent les compétences. En France, ils veulent pas la compétence. Ils veulent que dans leur bureau, des blancs, pas de noirs, pas d'arabes. Ça, je comprends pas. Enfin, pourquoi?
Il y a des très beaux paysages en France. Mais encore, si on n'a pas d'argent pour vivre, ça ne sert à rien du tout.
Il y a des beaux paysages. Mais si on voit quelque part où il y a des beaux paysages et il n'y a que des blancs qui sont racistes ou même des autres qui sont racistes, bah, ça ne sert à rien. Hein. On ne va pas se sentir bien, même si c'est un beau paysage. Même si on gagne des millions d'euros, on ne va pas se sentir bien. Donc, voilà.
Alors vous avez quel âge?
16 ans.
Et alors, vous voulez faire quoi plus tard?
Une école de commerce. Rentrer à l'école HEC, ça serait trop bien, franchement, pour moi. Ouais.
Et vous, qu'est-ce que vous voulez faire?
Je vais être le futur Steve Jobs, fondateur de Apple, tout simplement. J'envisage une classe préparatoire. Et ensuite, je sais pas, avoir une entreprise. Ah, j'aimerais bien donner du travail à certaines personnes qui galèrent, ça c'est sûr. Je voudrais partager les richesses, c'est ce que ne fait pas la droite. La droite, c'est un parti très conservateur. La droite représente seulement une partie de la France, une partie de la France bourgeoise qui gagne bien sa vie. Je vais pas parler comme un président. Moi, à la place de Nicolas Sarkozy, j'envisagerais un plan. Je crois qu'il y en a un qui a été envisagé à 300 millions d'euros, qui n'a pas été appliqué puisque Fadela Amara a été exclu du gouvernement François Fillon III. Ce plan devrait être appliqué, mais il coûte très cher, surtout pour la droite. Il me faudrait du pouvoir et je changerais tout ça. C'est tout. Quand je voyais mon père revenir et user avec des grosses mains, il était ouvré, il était usé. J'aimais pas ça, voir mon père usé et fatigué. J'avais mal au cœur en voyant ça. Et ça m'inspire.
Sourire en regardant la photo.
Oui, et en même temps, il y a une mélancolie qui se dégage de l'ensemble, qui est très très présente. On voit très peu d'êtres humains. Donc il y a cette espèce de mélancolie d'un monde qui est en déliquescence presque. On est déjà au-delà de la phase de fin, que ce soit dans la photo qui représente le bord de mer, qui est hors saison, donc tout est fermé, ou dans des photos comme celle-ci d'un petit village, c'est fini, il n'y a plus d'êtres humains. On n'est pas dans des centres urbains, on n'est pas dans des villes modernes, on est dans la France lointaine, celle qui n'existe presque plus, qui se perd maintenant, mais qui ne se perd pas avec beauté, qui se perd avec beaucoup de mélancolie. Dans 20 ans, ça n'existera plus. Dans 20 ans, le petit magasin de chasse-pêche n'existera plus. Peut-être même qu'il n'existe plus maintenant. Je ne sais pas si on peut inverser le cours des choses. Je n'y crois pas. C'est juste peut-être un regret d'un autre monde qui serait possible, qui aurait été possible. Mais peut-être que les solutions sont plus individuelles que collectives. J'ai choisi il y a pas mal d'années de vivre en dehors des villes et de travailler dans les villes, mais de ne pas y être en permanence. Je viens à Paris pour le travail fréquemment et pour voir des expositions aussi.
Là, oui. Vous habitez où ?
Dans les Alpes, dans un hameau de 6 maisons. Mon travail me permet de vivre là et de travailler sur place.
Qu'est-ce que vous faites ?
De l'acoustique. De la recherche en acoustique.
Et vous avez l'impression que vous vivez dans un monde qui se meurt, qui disparaît ?
Très nettement. Ah oui, oui. Oui, tout à fait. On le voit chez nous. Depuis une semaine, les postiers de plusieurs communes sont en grève parce qu'on ferme les bureaux de poste. En ce moment, c'est une réalité d'aujourd'hui. Et après les bureaux de poste, ce sera, voilà, comme on le voit ici, les commerces. Mais tout ça prend 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc on s'aperçoit moins, on est moins choqué par la faim.
Et vous, pourquoi vous avez décidé d'aller tout là-bas dans votre petit village ?
Pour vivre en humanité, pour vivre hors des villes et des... Vous voyez, de ce que nous offre la ville.
Qu'est-ce qu'elle nous offre, la ville ?
La solitude. Je regardais hier dans le métro, il y avait deux jeunes femmes qui étaient dos à dos. Il y avait beaucoup de monde, donc elles étaient serrées l'une contre l'autre, dos à dos, et chacune dos à dos avec son écran et penchée sur son téléphone. C'était une image impressionnante. Une image que Raymond Depardon aurait pu utiliser. Donc ça, voilà, je n'ai plus envie de le vivre. Dans le hameau que j'habite, 6 maisons, 11 habitants. Bien entendu, 11 habitants, nous nous connaissons, nous nous entraidons, nous nous retrouvons. Et c'est une vie collective, telle qu'elle a toujours existé. On ne sait pas forcément tout ce que fait le voisin et ce qu'il pense, mais on se connaît simplement suffisamment pour être ensemble quand c'est nécessaire.
Alors qu'est-ce que vous faites quand vous êtes ensemble ?
On se réunit dans la chapelle de notre hameau régulièrement pour des petites fêtes de village. La chapelle était désaffectée, non utilisée depuis 50 ans ou 60 ans. Elle ne servait plus que pour les enterrements. Et on en a fait un lieu commun, un lieu de vie. Ça fait 10 ans que ça dure. Je ne sais pas si ça peut durer. On est très isolé, le ravitaillement est à 30 km. Donc, tant qu'on est jeune, valide, ça fonctionne, ça va. Après, un hameau ou un petit village uniquement de personnes âgées, comme ça, j'y crois pas beaucoup. Donc je pense qu'à un moment donné, il y aura aussi un départ.
Et là, on peut savoir où c'est ? C'est le nom de votre hameau ?
C'est dans les Alpes. Voilà.
Alors pourquoi vous ne voulez pas le dire ?
C'est pas nécessaire. C'est chez nous. C'est un privilège de vivre là. La vie est une vie en paix, une vie en repos. Le silence est la chose peut-être la plus impressionnante. Quand on est dans le bruit, dans le brouhaha, on est obligé de se refermer pour survivre, alors que le silence donne toute l'ouverture. Et dans les photos, ici, on voit le silence. Mais c'est un silence qui est vide. C'est un silence de mort, de faim, de quelque chose. Alors que le silence qu'on peut éprouver dans nos régions, c'est un silence chargé, un silence vivant. Je suis frappé par tous ces ciels qui sont des ciels gris, blancs. Chez nous, le ciel est toujours bleu. Bon, j'exagère un peu, mais il est très souvent bleu. Alors, remplacer sur chacune de ces photos le ciel blanc ou gris par un grand ciel bleu, ce serait très différent.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
Les pieds sur terre, quartier d'été, culture pour tous, c'est le dernier de nos 5 volets consacrés à ce thème avec la France de Depardon, un reportage diffusé pour la première fois le 20 décembre 2010, signé Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Lionel Quentin, avec un coup de main de Vanessa Nadjar. Sandrine Chaperon, c'était bien sûr l'attachée de production des pieds sur terre, avec Céline Autin qui a préparé également toutes ces rediffusions d'été.
Dans la joie ou la douleur, douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. J'ai connu des paysages et des soleils merveilleux au cours de lointains voyages tout là-bas sous l'autre ciel. Mais combien je leur préfère mon ciel bleu, mon horizon, ma grande route et ma rivière, ma prairie et ma maison. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur.